travaillons face aux politiciens de façon à créer, disent-ils, un flou artistique sur la scène politique nationale. André Kordouma Dengar pour VOA Afrique, N'Djamena.
Merci beaucoup André, et on va débattre de tout cela avec nos invités. Ici à Washington, Valérie Nagibé, chargée de programme Afrique au National Endowment for Democracy, NED. À Yaoundé, Marie-Roger Biloa, journaliste PDG d'Africa International Media Group. Et puis à N'Djamena, Évariste Ngarlène Toldé, professeur des universités et politologue. Et je vais démarrer avec vous, Évariste Toldé, vous qui êtes sur place. Le dépôt de candidature pour le scrutin du 6 mai prend fin vendredi. Que faut-il déjà retenir de la décision du président de transition et de son premier ministre de se jeter dans la course?
Bien, vous le dites si bien, les deux chefs de l'exécutif se sont entendus pour engager ou s'engager dans ce processus électoral. Ils s'engagent donc pour l'élection présidentielle, en attendant que le Conseil constitutionnel ne valide leur dossier. La liste n'étant pas encore publiée, ce qu'on peut retenir, c'est que le président de transition il a été investi par le parti MPS, qui a fait de lui son candidat et son président d'honneur, avant d'être regagné par une centaine de partis, c'est le président de transition. Pour le chef du gouvernement, c'était une déclaration populaire devant ses militants, ce qui ne ressemblait pas à une investiture du parti. Il a voulu peut-être une investiture populaire. Il a rassemblé ses militants et il a déclaré sa candidature. Alors que 48 heures auparavant, il était incertain, il était indécis, il a laissé tout le monde dans la confusion, personne ne l'attendait à ce point-là. Mais il était difficile pour lui de ne pas se présenter à cette élection présidentielle. Finalement, il a décidé de s'engager. Il est engagé pour quelle élection ? Toute la question est posée. Et l'Italie attend de voir comment les deux vont pouvoir battre campagne.
D'accord. Alors, Marie-Roger Biloa, quelle lecture faites-vous de ces deux candidatures, celle du général Mahamat Déby et de son premier ministre Succès Masra, un signe de maturité, de réalisme ou un simulacre, comme le disent certains opposants?
Eh bien, d'abord, je pense que l'Afrique a le droit d'expérimenter une formule qui lui convient. Là au Tchad, on a un accord qui est intervenu, j'allais dire, après un bain de sang, dont les Tchadiens se souviennent encore, le jeudi noir il y a 2 ans, presque 3, donc 2. Et je crois que la politique ne sert pas à créer des divisions, mais à rassembler autant que faire se peut. Et donc, cet accord a été salué parce qu'il apportait une forme de sérénité dans une vie marquée par la violence et le sang. Et vraiment, le Tchad, c'est l'image de la guerre en permanence, de gens assassinés, et voilà, une sérénité introuvable. Et ça, ça a été un acte courageux de la part du président de la transition et de celui qui est devenu du chef de l'opposition et qui est devenu son premier ministre, de s'asseoir, de trouver un accord, de calmer le jeu et de dire allons de l'avant. Ça, c'est assez nouveau. C'est pas nouveau dans le fait qu'un président sortant, un président en place appelle un opposant pour former le gouvernement, mais dans cette situation où c'est une transition et que c'est un opposant qui a un très grand profil dont on ne peut pas s'attendre à ce qu'il s'efface complètement.
Donc, d'accord.
Voilà, ils doivent et ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire le président de transition veut se présenter, même si au départ il a une opposition, Et le Premier ministre aussi, même si au départ, on se disait, si le Premier ministre, peut-être qu'il ne sera pas candidat. Mais donc, tous les deux sont candidats. Il leur appartient désormais de faire marcher cette formule. On va voir ce qui va se passer.
D'accord.
Il y a beaucoup de scepticisme parce que c'est très difficile. Mmh. Quelqu'un suggérait que les deux devraient se retirer pour battre campagne. Bon, c'est réaliste. Il y a un président qui va assurer la position. Et l'autre, et Succès Masra, qui n'est là que depuis 4 mois, enfin, bon, il y a eu un accord il y a 4 mois. Il a un rôle à jouer, justement. Il n'a pas fini. On va voir.
D'accord, je voulais justement, ouais.
C'est compréhensible que tous les deux soient candidats.
Oui, Valérie, justement, que pensez-vous de ces candidatures? Celle de Succès Masra, qui fait plus de débat, est-elle forcément contre nature, comme le disent certains? Est-il celui qui a le plus à perdre ici?
Merci. Non, je pense que ce sont là des deux candidatures à espérer. Hein, pour ceux qui suivent la politique tchadienne depuis les 5-6 dernières années. Pour le docteur Succès Masra, l'actuel Premier ministre, il a toujours dit, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui le suivent, il a toujours dit qu'il est rentré au Tchad pour être au commun des affaires. Donc, pour chercher à être vraiment à la magistrature suprême. Donc, pour beaucoup de Tchadiens, ça n'est pas un étonnement. Un étonnement qu'il annonce sa candidature. Je pense que pour beaucoup, ça n'est qu'une logique, hein, une logique dans sa lutte politique, qui est vraiment de reprendre aux aspirations du peuple tchadien, d'avoir une société démocratique. Donc, pas trop d'étonnement du côté de Succès Masra.
Certains, quand même, sont surpris, surtout après les événements d'octobre 2022. D'autres, peut-être, pensent que c'est le seul moyen d'essayer d'accéder au pouvoir. Quel est-vous, pourquoi ça ne vous a pas surpris?
Ben, ça ne m'a pas surpris parce que Dr Succès Masra a fait une preuve de maturité politique en cherchant à réconcilier le peuple tchadien. Donc l'accord de Kinshasa qui a été mentionné ici, moi j'ai pas le contenu de cela, mais je pense que le Premier ministre actuel ne voulait pas laisser l'espace politique ouvertement occupé par le régime militaire.
D'accord.
Il est entré pour chercher des solutions démocratiques à son pays.
D'accord. Évariste Toldé, vous comprenez-vous les critiques d'une partie de l'opposition qui ne trouve pas opportune la candidature de Succès Masra, mais en même temps, est-ce que vraiment cela ne renforce pas l'apaisement, comme le disait Marie-Roger Biloa?
Oui, vous savez, le Tchad est champion en signature d'accord. Le Tchad reste champion en accord de réconciliation. Et ce n'est pas l'accord de Kinshasa qui viendra ôter de la mentalité des Tchadiens cette idée qui fait que chaque fois que les Tchadiens signent des accords, les lendemains sont toujours violents. Et ça, c'est depuis la Première République. Aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est vrai, la question du gouvernement pense avoir posé un acte historique. Ceux qui ont fait avant lui avaient tenu les mêmes propos. Mais où se trouve le cadre aujourd'hui? Où se trouve le cadre? On a eu un accord qui est toujours dans la tête des Tchadiens, l'accord de Khartoum de 2018 entre Issenabré et le président Félix Tshisekedi. Il y a eu plusieurs accords qui vont avoir lieu jusqu'à l'accord de Kinshasa. Donc sa candidature aujourd'hui, est-ce que ce sont les en-dessous de l'accord de Kinshasa? Parce qu'au fond, le problème, c'est un problème de recensement électoral, de fichier électoral. Aujourd'hui, personne n'en a parlé. Même au dialogue national inclusif, personne n'a évoqué le problème d'un nouveau recensement électoral, un nouveau fichier électoral. Personne ne peut battre le candidat du MPR. Personne ne peut battre le président de transition quand il est présenté par l'INPES. C'est ça la réalité.
Alors, oui. Marie-Roger Biloa, c'est vrai que beaucoup saluent finalement la publication de ce chronogramme qui va aboutir aux élections, mais cette élection va quand même se tenir sans Yaya Diallo, qui était présenté comme un adversaire sérieux au président de transition. Il a été tué, accusé d'être derrière l'attaque des locaux de l'agence des services de renseignement. Sa mort jette-t-elle un peu en doute sur le processus ?
100%, oui. Je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un accord, ce n'est pas la première fois que des accords apportent des accalmies provisoires, mais après on retombe dans les habitudes de violence. Et là, visiblement, c'est un régime de transition qui s'en est pas encore départi. C'est-à-dire, le jeudi noir, il y a 2 ans, il est encore dans l'esprit, il est encore dans les cœurs, dans encore les corps déjà. Cette violence est encore là. Et juste avant, j'aimerais quand même rappeler que le père du président de transition avait fait charger, avait déjà attaqué la résidence de Yaya Diallo et que sa mère avait été tuée dans le processus. Et certains avaient dit que le sang, je me souviens de ça, que le sang de Mama Diallo allait rejaillir sur Idriss Déby, père. Et bien, le fait qu'il ait été tué peu de temps après, quelques temps après, est comme une ligne de sang qui continue. Et là, l'assassinat de Diallo, le fils, par le fils, est un très mauvais présage. Et donc, tout c'est pour ça que je dis que tout ce qui peut calmer les esprits est bon à prendre au chat. Mais je crois qu'on n'est pas encore, on n'est pas sorti de ses habitudes et de ses réflexes. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées qui sont très justes. Hein. C'est-à-dire, là, on salue le fait que, bon, on se calme suffisamment pour aller vers les élections. Mais quelles élections? Sur quel fichier? Sur quelle base?
On sera obligé d'aller un peu vite pour pouvoir lire les commentaires Facebook avant la pause. Valérie, une réaction par rapport à cela?
Non, justement, je vais aborder dans le même sens. Hein. Je pense que l'assassinat de Yaya Diallo, qui est le président du Parti Socialiste Sans Frontières il y a 2 semaines, ne vient pas aider, la crédibilité de ce processus électoral. Je pense que ça a plutôt créé une espèce de doute dans l'esprit des Tchadiens du caractère démocratique de cette élection qui vont s'organiser d'ici 7 semaines. Voilà, donc 8 semaines, voilà. Donc oui, je suis entièrement d'accord que cela vient accentuer déjà le doute qui existait.
D'accord, alors on va lire quelques commentaires de nos téléspectateurs laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore est à N'Djamena, il dit que cette élection présidentielle au Tchad se soldera par un vainqueur devant être soit le président de transition, soit l'actuel premier ministre de la transition, que le meilleur gagne avec le respect des vrais votes sans contestation afin que le Tchad aspire au développement socio-économique. Zoro Bitohan est à N'Djamena toujours. Il écrit, cette élection soulèvera à coup sûr des tensions non seulement politiques mais aussi sociales. Et puis Jérôme Titka est à Douala au Cameroun. Il nous dit, nous savons comment les élections se passent chez nous au Tchad. Il n'y a jamais eu d'élection au Tchad. Voilà, donc merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et
de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités ici à Washington, Valérie Najibé, chargée de programme Afrique au National Endowment for Democracy, à Yaoundé, Marie-Roger Biloa, journaliste PDG d'Africa International Media Group, et puis à N'Djamena, docteur Évariste Ngarlem-Toldé, professeur des universités. Alors, Marie-Roger Biloa, le Tchad, on a peut-être 8 minutes pour parler des enjeux de cette élection au-delà même des frontières tchadiennes. Le Tchad qui fait face à des mouvements de rébellion armée, lui-même entouré par une ceinture de feu, hein, je pense au Soudan, à la région du Sahel, au Libye. Pourquoi ces élections sont importantes pour le Tchad et la région?
Et essentiellement parce que les gens pensent que ça va stabiliser, apaiser le champ politique. C'est surtout ça. Mais ce n'est pas très sûr. Le Tchad est dans une position qu'on connaît, c'est-à-dire, et que vous venez de rappeler, c'est un pays qui a toujours été l'enjeu de différents besoins de stabilisation, d'enjeux géopolitiques, voilà, allié de la France à un moment donné, allié de Kadhafi. Enfin bon, il y a eu toujours ces tiraillements entre à la fois les puissances, régionales et les puissances internationales. On a vu dans l'introduction d'ailleurs de notre mission, on a vu des images assez parlantes. On a vu le président de transition à Moscou. Avec Vladimir Poutine, on a vu donc le président, le premier ministre de transition à Paris avec son homologue français, et donc on voit déjà certaines accointances qui se dessinent, qui ne se dessinent pas. Enfin, on ne sait pas si c'est symbolique ou c'est vraiment suivi d'une substance ou d'un contenu palpable. Mais le Tchad, beaucoup ont les yeux braqués sur le Tchad, beaucoup ont des velléités de contrôler le Tchad pour leurs propres intérêts, et les Tchadiens ont toujours eu à se battre contre ça, à se positionner contre ça, et la plupart des conflits ont vu des ingérences étrangères, justement pour les mêmes raisons. C'est pour ça que cette élection, après la mort violente d'Idriss Déby Père, après tous les combats armés qu'on a eus, après les accords de Doha qui ont ramené quand même pas mal de... comment ils les appellent là-bas,
les groupes politico-militaires. Les
groupes militaires qui les ont ramenés, on se dit, est-ce que le Tchad va pouvoir trouver la voie de la paix pour des processus politiques qui aboutissent d'abord à une forme d'autonomie du pays et au développement, parce qu'on ne parle pas assez de la situation économique du Tchad qui est catastrophique. Donc le problème, c'est que comme la plupart des élections, il y a beaucoup d'espoir. Vous allez voir, les Tchadiens vont montrer un énorme enthousiasme, mais pour être déçus après, parce que on peut déjà le dire maintenant, s'il n'y a pas si la base n'est pas clarifiée, on vote sur quel fichier, est-ce que tout est mis en place pour que le processus puisse en faire, qu'il soit vérifié et qu'il y ait de vrais observateurs, qu'on ait de vrais résultats, eh ben, les gens seront déçus à la fin, parce que le président actuel ne veut pas perdre et l'autre, sans doute, il sait qu'il ne peut pas gagner, et peut-être qu'il y a un accord. Tout le monde se demande quel est le contenu de cet accord, et voilà, donc alors, on ne sait pas si on va atteindre les résultats. Oui.
Valérie Najibé, comment est-ce que la communauté internationale peut-elle aider le Tchad à aller vers des élections crédibles et transparentes?
Bah, écoutez, les Tchadiens, je peux simplement dire ici que tous les présidents du Tchad, y compris l'actuel, ont accédé à la présidence pas par la voie démocratique. Donc les Tchadiens, l'aspiration des Tchadiens actuellement, c'est d'avoir cette opportunité-là d'élire par la voie démocratique leur président. C'est vrai, l'annonce des dates lors de ces élections-là sont arrivées aussi plus tôt qu'on espérait, mais je pense que si la communauté internationale veut aider le Tchad, je pense qu'elle doit assurer la sécurité de ce processus-là, faire à ce que le processus soit au moins transparent, au moins inclusif, ou tout au moins démocratique. Donc pour ceux qui soutiennent, ceux de la communauté internationale qui soutiennent ce processus électoral, je pense qu'ils ont le devoir justement d'exiger au régime actuel un niveau de transparence dans ce processus-là et surtout de crédibilité.
Évariste Nalem Toldé, quel rôle la communauté internationale peut jouer dans ce processus pour un retour à l'ordre constitutionnel?
Vous savez, ce que les Tchadiens veulent, c'est d'abord de la démocratie. Et cette démocratie, c'est pour que chaque voix puisse compter. Malheureusement, on a vu lors de la publication des résultats du référendum passé que les résultats sortis des urnes n'étaient pas celui-là qui a été publié et diffusé. Après, il y avait eu des boycotts. Non, les Tchadiens souhaitent que leur voix compte. Aujourd'hui, la communauté internationale apporte tout son soutien au régime en place, à la transition, au chef de la transition. Alors que tout le monde sait que ce régime est arrivé par un coup d'État. Alors que certains régimes arrivés de la même manière, d'une manière inconstitutionnelle, comme au Mali, en Guinée, au Burkina, au Niger, ont été sanctionnés, malheureusement, aujourd'hui, la communauté internationale porte à bout de bras le régime de la transition et qui voudrait encore l'amener à gagner les élections. Ce que la communauté internationale peut faire, c'est d'exiger à ce que le nouveau recensement électoral puisse avoir lieu. Il ne suffit pas de parler de la transparence, de la régularité, de l'observation faite. Il faut repartir aux fondamentaux, c'est-à-dire un nouveau recensement électoral. Le fichier aujourd'hui est corrompu. Sur cette base-là, vous voulez voir être tracé pour le président de transition qui est supporté par la communauté internationale parce que c'est leur affaire. Ce que les Tchadiens veulent, c'est plus de démocratie, plus de liberté et plus de transparence sur la base d'un nouveau fichier électoral. Je ne reviendrai pas ici sur les institutions en charge des élections qui ont été taillées sur mesure à la tête du client. L'Agence nationale de gestion des élections, ceux qui sont nommés à la tête des comités constitutionnels, tout ça, c'est déjà des calculs qui sont faits pour que le président de transition puisse passer au Lénin et gagner les élections. Donc la communauté internationale doit attirer l'attention des décideurs publics aujourd'hui que l'élection présidentielle en vue a un enjeu très important. C'est
d'accord.
Pas comme la Constitution. C'est pas comme la Constitution où qu'importe la
voilà, malheureusement, nous arrivons un peu au terme de cette émission. Je promets de revenir sur le Tchad très prochainement dans cette émission Washington Forum. Je remercie énormément mes invités d'avoir répondu à nos questions. Merci à toute l'équipe technique et à nos télépartenaires qui reprennent cette émission sur le continent. À très bientôt. Au revoir.